Santé.
Santé. Santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette pour les 28 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. Je vous parle du vilain rhume là, qui gratouille dans ma gorge depuis lundi, mais je vous assure, c'est une coïncidence. Je vous parle de la campagne de vaccination qui a débuté au Québec le 1er novembre dernier. Un outil qui est, selon plusieurs, assez efficace pour prévenir la grippe, prévenir également les complications qui y sont liées. On parle d'une efficacité de l'ordre de 50 % à 70 %, quoique 70 % là, c'est énorme. Et pourtant, l'an passé, plusieurs ont critiqué l'efficience du vaccin. On a parlé d'une efficacité d'à peu près 8 %, même que certains experts ont dit 0 %. Comment on peut expliquer ça? Et aussi, comment on peut faire confiance au vaccin contre la grippe? Ben, Jocelyne Gadbois sera là en deuxième partie de l'émission, elle qui est infirmière, pour nous éclairer sur le sujet. Et puis, ben, je vous parle également de yoga. On le sait, on en entend parler énormément. Dans les dernières années, hein, il y a de nombreuses études scientifiques qui ont démontré qu'il y a plusieurs impacts, plusieurs bienfaits au yoga, entre autres l'augmentation du bien-être général, de l'humeur, de la qualité du sommeil, de la souplesse, la mobilité, meilleure gestion de l'anxiété également. Donc, en ce sens, on pourrait se dire que la pratique du yoga, ça peut être une option extrêmement intéressante pour les personnes âgées. Et Annie Courtecuisse, elle qui est professeure de yoga certifiée du côté de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, est là pour nous en parler davantage, accompagnée de Marie-Laurence Paré, chargée de projet aux événements également à l'IUGM. Bonjour, mesdames.
Bonjour, Marianne.
Bonjour, Marie-Laurence.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci de nous recevoir.
Annie, vous travaillez du côté de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, donc auprès d'une clientèle qui a des besoins particuliers. Comment on peut adapter le yoga pour des personnes plus âgées pour que ça soit bien sécuritaire pour eux?
En fait, on leur fait pratiquer du yoga sur chaise. Le yoga sur chaise, c'est du hatha yoga adapté sur la chaise. Ce qui fait que, justement, on peut les faire pratiquer de façon complètement sécuritaire.
Mm-hmm. Hatha yoga, est-ce que c'est une forme de yoga qui est plus adaptée pour des personnes âgées?
Non, le hatha yoga, en fait, c'est le yoga traditionnel, le yoga de base. C'est la base de tous les autres yogas, de tous les courants de yoga dont on entend parler actuellement. Donc, c'est le yoga vraiment traditionnel.
Mm-hmm. Donc, sur chaise, donc plus sécuritaire, est-ce que l'on peut utiliser n'importe quel type de chaise?
Ah, il faut que la chaise soit justement bien sécuritaire, bien stable, qu'on essaye d'ajuster aux élèves. On a un type de chaise qui convient très, très bien. Et si c'est nécessaire, on leur met un petit coussin dans le dos, on leur met des blocs sous les pieds pour que justement, ils soient bien stables sur leur chaise. Mm-hmm. L'importance de la posture, justement.
Des chaises sur roulettes, ça ne fonctionne pas. Hein?
Non, pas vraiment. C'est pas conseillé, non. Il faut que ce soit bien stable.
Et est-ce que le yoga sur chaise est différent du yoga, mettons, de l'hatha yoga traditionnel? Est-ce qu'il faut l'adapter? Est-ce que l'efficacité est la même?
Alors, je dis toujours à mes élèves de yoga sur chaise, vous faites du vrai yoga. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est du hatha yoga traditionnel. Toutes les postures sont les mêmes, juste elles sont adaptées sur la chaise. Okay. Donc, on peut faire vraiment toutes les postures. En fait, on fait des postures assises, on fait des postures aussi avec l'aide de la chaise. Mm-hmm. Donc, on peut faire des guerriers, on peut faire des choses vraiment très similaires au yoga debout, au tapis.
Donc, pas nécessairement de limite.
Non, il n'y a aucune limite. C'est juste une question d'adaptation. Toutes les postures sont adaptées. Mm-hmm. On peut faire également, par exemple, la salutation au soleil, qui est très connue en yoga. On l'a adaptée sur la chaise.
Mm-hmm. Est-ce que parfois vos élèves peuvent se lever et utiliser vraiment la chaise pour se soutenir ou pour faire...
Exactement. Oui, okay. Exactement, c'est ce que l'on fait. En général, on commence la classe assis. Une classe de yoga sur chaise est similaire à une classe de yoga au tapis. Mm-hmm. C'est-à-dire on commence par une relaxation, on fait des respirations, on fait des mouvements articulaires, on fait la salutation au soleil, on fait les postures assis sur la chaise ou debout avec l'aide de la chaise.
Donc, il n'y a que des avantages.
Il n'y a que des avantages, exactement. Il n'y a que des avantages. Disons que ça permet à toute personne de faire du yoga.
Mm-hmm. Est-ce que parfois vous rencontrez certains élèves qui ont des réticences? Bon, évidemment, j'imagine que s'ils se pointent à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal pour suivre vos cours à Nice parce qu'ils ont envie d'être mm-hmm. là, mais peut-être dans le cadre de d'autres groupes, ça vous arrive d'entendre dire « Ah, c'est pas pour moi, bon, je suis pas assez souple pour ça » ou « Bon, j'ai l'impression que c'est pas assez physique, c'est pas assez cardio ». Est-ce qu'il y a des préjugés envers le yoga encore?
Oui, il y a des préjugés envers le yoga. Ce que j'entends le plus souvent, c'est que je ne peux pas faire du yoga parce que je ne suis pas souple, effectivement. Mmh. Alors, je leur réponds justement, si vous n'êtes pas souple, faites du yoga parce que ça va vous aider dans votre souplesse. Hein. On retrouve aussi des a priori au niveau des hommes. Il y a quand même une grosse majorité de femmes, mais il y a quelques hommes qui, au début, viennent un petit peu, viennent voir comment ça va se passer. Donc, c'est vrai que, bon, après, c'est aux profs de les amener un petit peu vers la... dans le monde du yoga, quoi. Et bien souvent, ça se passe très bien.
Oui, oui. Je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'avantages au yoga. Bon, meilleure gestion de l'anxiété, meilleur sommeil, meilleure mobilité. Bon, tout ça, c'est pour la population en général, également pour les personnes âgées, j'en doute bien. Mais est-ce qu'il y a encore plus de bienfaits pour cette clientèle qui est bien particulière?
Oui, parce que même quelqu'un qui n'a jamais fait d'activité physique peut, par exemple, commencer par le yoga. Parce que le yoga, c'est une activité physique dans le respect des limitations de chacun. Toute la classe, je leur dis, respectez-vous. S'il y a une résistance, vous n'y allez pas. N'allez pas plus loin que ce que votre corps peut faire. Donc, toutes les personnes âgées savent maintenant qu'il faut bouger. C'est le mot d'ordre. Ils le lisent partout, ils l'entendent partout. Les médecins le disent. Bouger. Mais souvent, ils ont une inquiétude. Par le yoga, justement, étant donné que le discours est « respectez-vous », justement, c'est une bonne approche de l'activité physique.
Et on le sait, dans le cas où il y a une maladie chronique, on peut penser au Parkinson, mais ça pourrait être également de l'arthrite ou autre chose, ben le yoga est particulièrement approprié.
Particulièrement parce qu'on est toujours dans le respect. Alors, en plus, bon, avec les aînés, il faut beaucoup de vigilance. Si on parle arthrose, arthrite, c'est vrai qu'arthrose, ça aide, ça lubrifie les articulations, c'est parfait. S'ils sont en crise d'arthrite, c'est à nous de dire non, là, aujourd'hui, il ne faut pas aller parce qu'il y a une inflammation. Donc, ça demande beaucoup plus de vigilance.
Plus de gestion pour vous, Annie?
Ah oui, ouais. Tout à fait, oui. Il faut beaucoup d'attention, d'écoute à chaque personne. C'est pour ça qu'en général, on demande des groupes qui ne sont pas très importants.
Il y a combien de monde à peu près dans les classes, dans vos classes de yoga?
Au projet Avantage, à peu près 15 personnes, je pense. Mm-hmm. Oui, 15 personnes.
Et est-ce qu'il y a parfois la supervision d'un médecin ou d'une infirmière qui va venir jeter un coup d'œil et dire « Ah, ben voilà le profil, est-ce que ça peut arriver, ça? »
Non, en général, moi, je leur fais remplir des fiches de santé. Okay. Parce que j'ai besoin de savoir quelles sont leurs pathologies. Parce qu'il y a des choses, je vais prendre quelqu'un qui a une prothèse de hanche ou qui souffre d'un glaucome, je vais adapter les postures. En fait, toutes les postures sont adaptées au groupe, puis finalement, sont adaptées à chaque personne. Je sais que telle personne, elle ne va pas pouvoir se pencher trop à l'avant parce qu'elle a un glaucome. Donc, en fait, j'ai les fiches de santé, puis après, c'est moi qui adapte les postures en fonction de la personne.
Ce que je trouvais particulièrement intéressant et important de mentionner aujourd'hui, c'est que le yoga peut aider des personnes qui vivent avec des douleurs chroniques. Mm-hmm. Or, on le sait, les personnes âgées sont énormément touchées par les douleurs chroniques. Là, on parle d'à peu près une personne âgée sur deux. C'est beaucoup. En quoi le yoga peut aider à la gestion de la douleur chronique?
Alors, le yoga peut aider à la douleur chronique dans le sens où on donne aux élèves qui arrivent des outils pour mieux vivre avec leur douleur chronique. C'est une approche différente, finalement, du yoga aux aînés. Les aînés qui viennent pratiquer le yoga, en général, ils sont en forme, ils veulent s'entretenir, ils veulent bouger. Quand ils souffrent de douleur chronique, ils arrivent et puis ils viennent avec leur douleur. Ils nous déposent la douleur. Aidez-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, moi, je leur dis toujours, j'ai une mauvaise nouvelle, je ne peux pas vous guérir, mais j'ai une bonne nouvelle, ouais. Je vais vous aider à mieux vivre avec votre douleur chronique.
Faites pas des miracles.
Non, je ne fais pas de miracles, c'est dommage, j'aimerais bien. Disons que le yoga, pas moi, le yoga va vous aider à mieux vivre avec la douleur chronique.
Ouais.
Et je leur donne comme une sorte de boîte à outils. Donc, les outils, c'est la respiration, c'est les mouvements articulaires, c'est les postures. Puis eux, ils choisissent leur outil. Et finalement, je suis souvent dans cette optique-là. Prenez-vous en charge, je vais vous aider, le yoga va vous aider. C'est dans ce sens-là qu'on travaille avec la douleur chronique.
Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce que vous dites, Annie Courtecuisse, c'est qu'on ne devient plus une victime de notre douleur. Là, on s'implique en fait dans une espèce de plan de vie pour améliorer notre qualité de vie.
Exactement.
Au quotidien. Et là, ben, on s'implique. Là. Et là, j'imagine que ça contribue à une meilleure humeur, meilleure santé mentale, en plus d'une meilleure santé physique.
Tout à fait. En fait, c'est tout à fait ça. Bien souvent, les personnes en douleur chronique s'entendent dire par leur thérapeute, je ne peux plus rien faire pour vous. Parce que le yoga, c'est presque comme le dernier espoir.
Mm-hmm.
Donc, quelque part, là, j'en dis, si, vous pouvez quelque chose pour vous, devenez acteur de votre santé. Et puis, quand ils se rendent compte qu'effectivement, mm-hmm. ils sont acteurs, ils ont un pouvoir sur leur santé, ça change tout au niveau du mental. Et si le mental va bien, le corps va bien, et inversement.
Ouais, ouais. Et j'imagine que ça doit s'observer, dans certains cas, une moins grande quantité de médicaments qui est consommée.
Ça arrive. Certains baissent leur médication. Certains, oui, je l'entends assez souvent. Ouais. Assez souvent, oui.
En quoi c'est innovateur, Annie, d'insérer des cours de yoga dans un institut de santé en milieu hospitalier?
Ben, ça change énormément de choses parce que d'abord, au niveau de la clinique de la douleur, c'est le médecin qui fait une prescription, qui dit au patient, je vous conseille de faire du yoga. Donc, c'est le médecin qui conseille, c'est complètement différent. Donc, en plus, après, on travaille avec un médecin, avec une équipe médicale, on est extrêmement entouré dans le milieu hospitalier. Et je trouve aussi que c'est une belle reconnaissance du yoga parce que on a notre petit local, on fait du yoga, les élèves viennent toutes les semaines et je trouve que c'est très innovant. Et les élèves d'ailleurs sont très fiers parce qu'ils savent qu'ils sont quand même des pionniers là-dedans et c'est vraiment tout nouveau et c'est merveilleux.
C'est un élément de motivation également.
Élément de motivation, oui, tout à fait.
Est-ce que vous, ça modifie votre approche?
Complètement.
OK.
Oui. Parce que j'enseignais aux aînés depuis quelques années. Et puis, la douleur chronique, ça a été une autre approche. Parce que là, vraiment, comme je disais tout à l'heure, ils arrivent avec leur douleur. Tenez, voilà ma douleur, qu'est-ce qu'on fait? Trouvez-moi une solution. Donc, j'ai complètement modifié ma façon d'enseigner. J'enseigne pas de la même façon avec une classe d'aînés en yoga sur chaise et avec la douleur chronique.
Mm-hmm.
Que ce qu'ils veulent, c'est soulager leur douleur, avant tout.
Oui. Et les résultats sont probants.
Mais oui, on a de bons résultats. Certains élèves viennent depuis 4 ans déjà, toutes les semaines, qu'ils fassent du verglas, de la neige, qu'ils fassent 40 degrés, toutes les semaines, ils viennent de façon régulière. Et pour moi, c'est la meilleure preuve qu'ils y trouvent un bienfait, parce que sinon, ils ne reviendraient pas.
On a hâte d'avoir vos cours en vidéoconférence, Annie Courtecuisse, pour que ça soit diffusé partout au Québec, ces cours de yoga-là, adaptés aux personnes âgées. Merci beaucoup. Marie-Laurence Paris, on ne vous a pas entendu beaucoup, mais c'était voulu, et là, on vous lance le micro et la parole est à vous. Vous qui travaillez du côté de l'Institut de gériatrie de Montréal également, est-ce que ça vous arrive de passer par les classes, Dani, et de voir l'évolution des cours?
J'ai eu la chance de voir... c'est assez secret, un cours de yoga. Hein? C'est un petit cocon, donc c'est comme un studio de radio. On n'entre pas qui veut, mais j'ai eu la chance de rencontrer les élèves d'Dani à quelques reprises. Puis j'ai eu la chance aussi de voir... Annie est allée dans quelques médias aussi parler des bienfaits du yoga et du yoga sur chaise. Donc j'ai eu la chance de l'entendre et de voir les élèves en action. Mais ce que je voulais dire quand vous parliez qu'on a hâte de la voir, Annie, elle travaille en ce moment avec l'équipe de l'Institut sur un livre. Elle est bien discrète, mais il va y avoir un livre sur le yoga sur chaise qui va paraître prochainement dans nos publications. On n'a pas encore une date précise, mais on viendra peut-être vous en reparler. En tout cas, on vous passera l'information, c'est certain, Marianne. Et ce sera la chance avec un vidéo aussi, un DVD pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, de pouvoir en profiter à la maison, parce qu'on veut vraiment rendre nos savoirs les plus accessibles possibles.
Et il y en a beaucoup des Samoans du côté de l'IUGM.
Mmh. Oui, puis c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on a la chance. Donc, Annie s'est joint à l'équipe de la clinique de la douleur de l'Institut, donc ce qui est très précis. Et nous, on a dit, bon, on veut travailler aussi avec Annie pour pouvoir rendre le yoga sur chaise accessible au grand public. Des fois, on a des douleurs, mais on n'est pas nécessairement suivi à la clinique. On a, pour toutes les bonnes raisons que vous avez nommées, envie de prendre part au yoga. Donc, c'est possible. Il y a des classes actuellement qui se donnent, mais j'invite les gens à nous contacter. À partir de cet hiver, on a une nouvelle programmation qui va débuter, donc à partir de la mi-janvier 2016. Et les cours de yoga sur chaise reviennent 2 fois par semaine. Alors, pour les gens qui veulent en savoir plus, ce sera possible de nous contacter. Je vais vous laisser nos coordonnées. On offre aussi des cours pour les dames qui veulent travailler leur plancher pelvien. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a une femme sur deux aussi au Québec qui souffre d'incontinence urinaire et ça amène plein de problèmes sous-jacents aussi, même jusqu'à des problèmes d'équilibre dans certains cas. Oui. Donc, ça va très, très loin. Et voilà, c'est un sujet qui est encore tabou, mais on a un cours aussi pour ça. Super amusant aussi parce que ça a été fait pour que ce soit pratique, qu'il y ait des astuces très, très quotidiennes, des exercices avec de la musique et tout. Donc, on a ce cours-là. Puis, on a des cours aussi pour la mémoire, pour les gens qui veulent travailler la mémoire cet hiver. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi en terminant, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps.
Ah, mais vous avez... prenez le temps, Marie-Laurence. Oui, oui, oui.
On a des conférences aussi durant toute l'année pour les gens qui veulent venir nous voir. Donc, ça, c'est gratuit au niveau des conférences. Et on a plein de sujets qui s'en viennent. Il y a un sujet assez intéressant qui va paraître donc le 10 décembre prochain.
Eh oui, c'est la loi sur les soins de vie.
Mm-hmm. Exactement. Je sais que ça vous intéressait plus spécifiquement. Et on aura donc une conférence sur le régime des directives médicales anticipées qui va être touchée le 3 décembre prochain à 14h. C'est Dr Yvette Lajeunesse, qui est médecin de famille à l'IUGM, qui va venir nous en parler. Et on revient sur le sujet le 14 janvier à nouveau. Et là, c'est Véronique Yvon, la députée de Joliette à l'Assemblée nationale du Québec, et Dr David Lucier, qui est gériatre chez nous, qui travaille avec Annie, qui vont venir nous parler. Donc, la loi sur les soins de fin de vie et l'aide médicale à mourir. Donc, ça, c'est un des sujets qui s'en vient.
Il y a beaucoup de questions là, qui interpellent les gens par rapport à cette nouvelle loi-là là, qui s'en vient incessamment.
Tout à fait. Puis là, c'est comme 2 sujets séparés, mais en tout, si les gens veulent donc s'informer, ça va être vraiment la place pour le faire. Puis comme je vous dis, il y a d'autres sujets qui s'en viennent. On va parler en février de sexualité. On va parler en mars de sommeil. Alors vraiment, on invite les gens à venir nous voir. Et pour en savoir plus, bien, c'est www.iugm.qc.ca/avantage. Puis on peut aussi nous appeler 514-340-2800, poste 3139.
Ça sera également sur notre site.
Merci, Marianne.
Parce qu'il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, à petit prix, souvent, la plupart du temps, Marie-Laurence?
À petit prix. Alors, c'est un centre qui doit s'autofinancer parce que les fonds qui sont reliés donc à nos formations, donc ce sont, on doit s'autogérer, mais vraiment, on est très conscient du porte-monnaie des aînés. On sait que les gens doivent jongler avec plein de choses, donc il y a le fait que ça soit abordable et aussi dans plusieurs cas pour les gens de 70 ans et plus qui font un revenu de moins de 40 000 $, on a accès au crédit d'impôt du gouvernement provincial, donc nos cours peuvent être allégés un petit peu de cette façon-là aussi.
Très intéressant tout ça. Annie Courtecuisse, ça a été un plaisir de vous parler. Ce sera un plaisir de vous recevoir pour ce bouquin « Tout secret », mais à venir très bientôt. Vous êtes professeure de yoga certifiée, Marie-Laurence Paré, chargée de projet aux événements à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Toujours un plaisir de collaborer.
Merci.
Bye-bye.
Merci.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter. We'll be right back.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Marianne.
Merci d'être là.
Oui, sous cette pluie battante.
Vous n'avez pas la grippe toujours?
Non.
Moi, j'ai un rhume depuis quelques jours. Est-ce que j'aurais dû me faire vacciner, Jocelyne?
Bien, vous savez d'abord que le rhume et la grippe, c'est complètement différent. Oui.
En effet. Mais bon, la grippe, on sait qu'il peut y avoir des complications.
Oui.
C'est pour tout le monde, le vaccin contre la grippe.
Bien, en fait, oui, c'est pour tout le monde. Mais il y a des clientèles plus spécifiques qui sont recommandées. D'ailleurs, le vaccin gratuit pour ces clientèles-là. Mais tout le monde peut l'avoir. Mais il y a des clientèles qui paient, puis il y a des clientèles qui ne paient pas.
Et je pense que la direction publique, cette année, a envie d'axer davantage sur les familles et les enfants.
Bien oui, exactement. Et toujours les personnes âgées de 65 ans et plus, et toujours toutes les personnes de tout âge qui ont des maladies chroniques.
Ah oui.
Et leurs proches également.
Mm-hmm,
okay?
Mm-hmm.
Mais les enfants, effectivement, parce que ça a une grande capacité de propagation.
Oui, on le sait.
On le sait. Exactement.
À la garderie, le laboratoire aux microbes.
Oui, oui. Bon, votre confrère vient de m'en parler pour sa fille, là.
Jocelyne, c'est mélangeant un petit peu le vaccin contre la grippe parce que les informations semblent un petit peu être inverse. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'an passé, on disait que le vaccin avait été très peu efficace. On parle de 8 % même certains vont dire 0 % mais sinon, on dit que c'est un outil qui est efficace.
Absolument.
C'est quoi la lumière là-dessus?
Alors,
là?
le principe de base, c'est que pour les clientèles à risque, particulièrement, le vaccin contre la grippe est toujours recommandé. À cause des risques de complications qui sont très significatifs pour ces personnes-là.
Mm-hmm.
OK? Alors, d'emblée, je dirais que pour les personnes à risque et les travailleurs de la santé, qui sont un principal vecteur également, c'est important. Et aussi, j'ai lu dans la littérature et surtout la chronique du Dr Vadeboncœur qu'on a à peu près 43 % des personnes salariées qui se font vacciner dans tout le réseau de la santé. C'est pas beaucoup.
Oui, mais aussi, c'est intéressant parce que la grippe, ça a un coût également. Hein?
Absolument. Mm-hmm. Absolument, ça a un coût de maladie pour ces personnes-là. Puis c'est pour transmettre aux personnes qui sont plus vulnérables, effectivement. L'objectif du ministère de la Santé est de 80 %
OK.
80 % pour l'ensemble des clientèles à risque et 80 % également pour le personnel. De la santé, du réseau de la santé.
Mais parfois, j'ai l'impression que les gens ont peut-être peur du vaccin. Est-ce qu'il y a des symptômes?
Bien, quand on se fait vacciner, on a une injection dans le bras, on a un petit peu de rougeur, un petit peu d'enflure, on peut faire un peu de fièvre légèrement, puis un peu de raideur musculaire. Mm-hmm. Ça, c'est normal comme réaction vaccinale.
Okay.
Là où ça devient anormal, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de température, 39, 40, qui dure plus que 24 heures, 48 heures, et également des raideurs musculaires incroyables, et effectivement des raideurs musculaires qui peuvent aller jusqu'à des engourdissements.
Mm-hmm.
Alors là, on n'aime pas ça.
Ouais.
Puis des urticaires également.
Ah,
ça
oui.
peut arriver, des urticaires sur la peau.
Donc, une réaction assez vive au vaccin
à ce
moment-là.
Oui.
Est-ce qu'il agit immédiatement, le vaccin?
Non, ça prend 2 semaines avant qu'il soit efficace.
OK, quand même. Hein?
Alors, souvent, on va se faire vacciner, puis avant qu'il soit complètement efficace, son taux d'efficacité est de 50 à 70 %.
Mm-hmm.
OK? Ça prend 2 semaines avant que l'immunité se développe à l'intérieur du corps. Alors, évidemment, si on rencontre des gens qui ont un virus puis qui nous donnent un virus, bien, on peut attraper une grippe, mais ça, c'est pas à cause du vaccin.
Mm-hmm.
C'est pas à cause du vaccin.
C'est sûr que c'est aisé de dire à ce moment-là, ah, bien, il n'est pas efficace, mais il faut savoir que ça prend 2 semaines avant qu'il le soit.
Absolument. Puis aussi, on entend souvent les personnes, je me suis fait donner le vaccin contre la grippe, puis j'ai été malade, puis j'ai eu la grippe pareil. Mais c'est pas cause à effet direct ici, là. Pas du tout.
Mm-hmm.
Pas du tout. Faudrait faire l'histoire puis voir qui ces gens-là ont côtoyé pour savoir de qui ils ont été contaminés. Ça peut avoir été contaminé avant la grippe puis après la grippe.
Mais qu'est-ce qui fait que parfois, certaines années, le vaccin est moins efficace que d'autres?
Bien, c'est l'année passée qu'on s'est trompé royalement parce qu'on n'avait pas estimé le bon virus, la bonne souche de virus. C'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel.
Oui, ça arrive une fois aux 10 ans à peu près.
Même pas.
OK.
Même pas, même pas. Parce que, vous savez, c'est mondial, ce suivi de la grippe. Mm-hmm. C'est vraiment mondial. L'OMS, les santé publique canadienne de tous les autres pays, il y a une concertation, il y a des bulletins sur la grippe qui régulièrement qui circulent à travers le monde. Et le Québec fait sa part là-dedans. Notre bulletin s'appelle le Flash.
Ah oui.
Il est distribué à tous les professionnels en santé publique et aux médecins.
Flash
et ça donne effectivement le suivi semaine à semaine de l'évolution de la grippe. Et là, quand on fait les souches de vaccins, bien, on essaie d'imaginer quelle souche va être propagée le plus au niveau de la population de l'année qui s'en vient. Mm-hmm. L'année passée, on n'était pas dans le mille.
Ah bon.
Puis il n'était pas efficace du tout. C'était comme se faire pas vacciner du tout.
C'est quand le meilleur moment pour se faire vacciner? J'imagine que c'est
on
là.
On est dedans. On est dans la période de vaccination depuis même la mi-octobre, je dirais. Puis dans vos CLSC, chez votre médecin, chez votre pharmacien.
Est-ce que ça a des coûts?
Pour les clientèles à risque, pas du tout. Et pour les clientèles non à risque, oui, il y a des coûts.
OK.
Et même pour les personnes qui ont peur des injections,
ouais.
Alors il existe une forme nasale.
Ah oui.
Mais c'est payant, effectivement.
Est-ce qu'on prend rendez-vous?
On prend rendez-vous dans notre CLSC, le plus possible, le plus près de chez nous. C'est la source la plus proche. Puis chez notre pharmacien aussi, je pense que c'est les endroits les plus accessibles.
OK. Est-ce que vous l'avez reçu, vous, Jocelyne?
Pas encore, mais je compte le faire. Je compte le faire. Je le fais chaque année, d'ailleurs.
Il faut pouvoir donner l'exemple.
Oui. Puis tous les professionnels de la santé, je les invite à propager... cette prévention.
Certainement, parce que on le sait, hein, lorsqu'on a la grippe, là, on en a pour à peu près 10 jours, à peu près être sur le carreau.
Absolument.
C'est souffrant, la grippe. Alors, ça, on peut l'éviter. Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Voilà.
Justine
Et c'est moins à risque, le vaccin contre la grippe, que tous les antibiotiques que l'on peut prendre.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Yannick Roberge à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. Merci d'avoir été des nôtres. Ben, nous, on se donne rendez-vous demain. 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.